Bonjour.
Bonjour Fabrice.
Tout à l'heure on parlait de Charles Cros, vous allez nous parler d'un compagnon du grand Charles, un autre Charles.
Et oui, qui est mort il y a 30 ans jour pour jour, c'est André Malraux et sous un aspect particulier, ses engagements politiques entre le communisme et le gaullisme.
Rien n'est plus important dans l'histoire du monde que de faire partie des gens qui ont été capables de dire non. Le plus grand personnage de l'histoire du monde s'est senti.
Ans d'histoire.
Jamais un intellectuel n'est allé aussi loin dans ses engagements qu'André Malraux. Jamais non plus il n'a eu autant d'ennemis quand, après avoir été un compagnon de route du Parti communiste, il est devenu ministre du général de Gaulle. Ce que Malraux aurait appelé une métamorphose, d'autres le considéraient comme une trahison, sans comprendre ce que pouvait avoir de commun l'anticolonialiste des années 20, le colonel de la République espagnole, le chef de la brigade Alsace-Lorraine et le ministre de la Ve République. Rien, sinon la même volonté de dire non, comme Antigone, et la soif d'aventure et d'action qui avait conduit André Malraux en Asie dans les années 20. Il y était parti pour y voler des statues khmères, il en est revenu avec ses premiers romans.
Le prix Goncourt pour 1933 est décerné à Monsieur André Malraux pour son roman La Condition Humaine.
Il est d'usage, après tout prix littéraire, d'expliquer par quoi et comment le livre qu'on a écrit doit plaire à tous. Je désire qu'il n'y ait aucune équivoque sur le mien. J'ai essayé d'exprimer la seule chose qui me tienne à cœur et de montrer quelques images de la grandeur humaine.
Guillaume Belin, bonjour.
Bonjour.
Dans la préface du livre que vous venez de signer chez Timé Éditions, André Malraux, un écrivain au cœur du siècle, eh bien vous rappelez cette formule de Malraux que l'on vient d'entendre en 1933. La seule chose qui me tienne à cœur est de montrer quelques images de la grandeur humaine. Et vous dites que ça résume tout Malraux, au fond, aussi bien son œuvre que ses engagements politiques très différents. C'est ça Malraux, c'est ça qui explique Malraux, la grandeur, la recherche de la grandeur humaine.
C'est la ligne directrice aussi bien de sa vie que de son œuvre. Toutes les actions politiques de Malraux, tous ses écrits, même ses recherches sur l'art, tout ce qui a dirigé sa vie ont toujours visé à chercher ce que l'homme pouvait accomplir de grand. Et Malraux était aussi un parfait autodidacte. Donc pour lui, ce qui pouvait s'accomplir de grand allait de pair avec la recherche de l'accomplissement de soi et la transformation du monde dans lequel on vivait.
Alors il va la rechercher dans des directions très différentes, cet accomplissement de soi. D'abord, bon, c'est pas un homme, un écrivain, un intellectuel engagé, jusque dans les années 20, il est né en 1901, et puis alors dans les années 20, il part en Indochine, et c'est là que vont apparaître, vont commencer ses premiers engagements. Cela dit, quand il part en Indochine, vous le rappelez, Guillaume Belin, c'est pas du tout pour y militer contre le colonialisme.
Le jeune Malraux dans les années 20 est vraiment un dandy des années folles. Il mène une vie assez échevelée qui l'amèneront à quelques revers de fortune. Et la raison première de son départ est d'aller se trouver un avenir, et comme c'est un jeune homme très cultivé, il perçoit tout de suite les potentialités qu'ont le marché d'art naissant en provenant des colonies.
Enfin bref, il va voler des statues.
Il va prélever quelques statues.
Oui, je sais pas la différence, mais bon.
Non, le traité de voleur est un peu excessif, puisqu'on est dans un contexte assez différent de notre époque où...
Il les découpe et puis il essaie de les ramener en France.
C'est une équipée de pieds nickelés qu'il a monté avec quelques compagnons. Donc, immanquablement, il se fait prendre par la police et est arrêté. Il doit être jugé sur place et est mis à l'index par la société coloniale, ce qui l'amène quasiment par accident à côtoyer la condition des indigènes. Et c'est là que naît sa première révolte. L'anticolonialisme.
Dans un journal qui va s'appeler Indochine, il était aussi en Asie à ce moment-là.
Enfin, il est revenu en France, il est reparti en Asie. Là, il s'y trouve au moment où se déclenchent des troubles en Chine, notamment une révolution communiste à Shanghai, dont il va faire la condition humaine. Et bref, de l'anticolonialisme dans cette revue, évidemment, il se retrouve tout naturellement auprès des communistes. Alors, j'étais très surpris en vous lisant Guillaume Belin, parce que le personnage qui l'intéresse le plus dans le communisme de l'époque, c'est pas du tout Staline qui est au pouvoir, c'est Trotsky.
Malraux a toujours eu une relation très ambiguë vis-à-vis du communisme. Il côtoie les communistes parce qu'il est révolutionnaire. Et il est révolutionnaire parce qu'il côtoie une injustice extrêmement marquante. C'est pour ça que parmi les grandes figures de la révolution soviétique, celle de Trotsky est la plus proche de ce à quoi il aspire. En plus de ça, sa rencontre avec Trotsky a quelque chose, là encore, d'assez accidentel et qui sert sa carrière naissante. Puisque Trotsky s'emparera de son premier livre avant la condition humaine, Les Conquérants, et en fait une grande critique où il juge autant de la nature littéraire de Malraux que des raisons et de la critique de son engagement politique. Donc il est légitimé par Trotsky au début de son aventure qu'il mènera du communisme au gaullisme.
Alors cela dit, il est quand même fasciné aussi par l'organisation du Parti communiste français, des partis communistes staliniens de l'époque, qu'il va retrouver en 1936, lorsqu'en juillet, juste après le déclenchement de la guerre civile, il va se battre dans le camp républicain, encore une fois, dès le mois de juillet 1936.
Pendant des jours, pendant des mois, nous n'avons pas eu autre chose à faire que d'organiser la discipline révolutionnaire. J'ai vu le sol commencer à trembler sous un autre grondement sourd qui se répétait et qui était l'arrivée des premières brigades internationales et des premiers régiments véritablement organisés d'Espagne.
Alors c'est une des chansons les plus connues de la guerre d'Espagne, dans laquelle Malraux s'engage cette fois-ci physiquement, hein, ce n'est plus la lutte contre le colonialisme dans un journal. Il part dès les premiers jours, hein. Il arrive même, on l'a entendu, avant les brigades internationales, Guillaume Belin.
Malraux arrive en Espagne 5 jours après le début du putsch. Dans les années 30, l'aventure a repris le dessus. En particulier, il a participé aux premières aventures aériennes. En même temps, il s'est vraiment enraciné dans son rôle d'intellectuel engagé dans la défense des militants communistes chassés par les nazis et très préoccupé par les fascismes montants. Donc, dès que la crise éclate en Espagne, il s'y précipite. Sans avoir trop d'idées de quoi. C'est avant tout, déclare-t-il, pour apporter un témoignage du soutien de la France et voir ce qu'un intellectuel comme lui peut arriver. Mais son tempérament d'aventurier reprend le dessus, et se précipitant au-devant des autorités républicaines espagnoles, il dit « Vous avez besoin d'une aviation, les républicains sont arrivés par les airs, je suis un aviateur, confiez-moi toute cette affaire. »
Les franquistes, vous voulez dire, sont arrivés par les airs.
Les franquistes, pardon, oui.
Et alors, cet homme qui ne sait absolument pas piloter un avion devient colonel de plusieurs avions, enfin commande plusieurs avions, une escadrille d'avions.
Il n'a jamais été militaire, n'a jamais été pilote, mais va en quelques semaines de briques et de broc monter une escadrille aérienne qui sera pendant près d'un an la seule force aérienne des républicains espagnols.
Et du même coup décimé, si bien qu'il quitte l'Espagne temporairement pour aller défendre la cause des républicains en France, et d'ailleurs dans cette archive qu'on a entendu, c'était à ce moment-là, il va même aller aux États-Unis, et puis il va revenir pour tourner le film La Sierra de Teruel, mais alors assez dépité quand même. C'est au moment où sort ce film en 39 que la guerre d'Espagne est perdue par les républicains, que Franco triomphe en Espagne, mais il ne perd pas l'espoir, hein, pour reprendre aussi le titre qui a inspiré son aventure espagnole. En 1939, là encore, c'est l'aventurier qui reprend, enfin l'aventurier, le combattant, et puis le patriote. dès 39, il a quand même 38 ans, il demande à être engagé dans l'armée française au moment où se déclenche la guerre.
Et il a cette phrase magnifique, quand on a écrit ce que j'ai écrit et qu'il y a une guerre en France, on l'a fait. Maintenant, les autorités militaires de l'époque ne le voyaient pas de cet œil-là, puisque son rôle en Espagne avait été très sulfureux. C'était plus un aventurier qu'un militaire. Il avait été réformé dans sa jeunesse en France. Donc, pour l'armée française, il n'existe pas. Il finit quand même par réussir à se faire incorporer, mais comme vulgaire deuxième classe, qui croupit pendant la drôle de guerre dans une caserne à Provins et finit par être fait prisonnier avec son contingent sans même avoir pu combattre.
Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, Guillaume Bellin, on peut s'attendre quand même que, une fois l'occupation commencée, une fois les Allemands en France, il entre dans la résistance. Pas du tout. Pendant 2 ans, il ne va rien faire.
Il faut pas oublier qu'à cette époque, Malraux a déjà 40 ans. Il a déjà énormément vécu. Il a vécu les révolutions asiatiques. Il a vécu la guerre d'Espagne. Et comme il le dit lui-même, il est là des défaites. Il a toujours été guidé dans ses engagements et dans ses luttes par la fraternité des hommes avec qui il se battait, quels que soient les très faibles moyens dont il disposait. Et amèrement, il constate que ça l'a systématiquement conduit à la défaite du camp dans lequel il s'engageait. C'est pour ça que, tenu par un certain découragement, oui, il commence par retourner vers la littérature.
Alors vous citez cette phrase, quand il y a quand même des gens qui disent, mais enfin, vous, le Malraux de l'Espagne, etc., vous ne pouvez pas nous laisser tomber. Il y a une grande résistante, Simone Martin-Chauffier, qui vient le voir en 1940, et qui lui dit, venez dans la résistance. Il a cette phrase, justement, on ne peut rien faire, dit-il, tant que les Américains ne marchent pas, je suis là des défaites, la Chine, l'Espagne, la France, c'est ce que vous dites. Cela dit, en 43, alors là, il entre de plein pied dans la résistance, dans les maquis.
C'est toute l'ambiguïté du personnage qui a toujours ses valeurs, mais qui en même temps est toujours conscient du rôle qu'il veut jouer. Il aura cette autre phrase quand Emmanuel Dastil-Lavigerie vient essayer à son tour de l'enrôler dans la résistance, « Je ne veux pas être le second ». Quand il s'engage, quand il finit par prendre le maquis en 43, c'est poussé par une tragédie personnelle. Ses deux demi-frères étaient, eux, des résistants de la première heure, qui, tous les deux, n'ont pas survécu à cette aventure. Et c'est par les contacts dans les services anglais qu'avait son frère, Roland, qu'il part en Corrèze et qu'il commence à vouloir construire, après la stature du Malraux républicain espagnol, la stature du Malraux résistant, en essayant de fédérer les maquis dispersés dans les forêts du Lot, de Dordogne et de Corrèze.
Et avec son béret de colonel de l'armée espagnole, hein, c'est assez extraordinaire, on voit des photos dans ce livre, il va être fait prisonnier, hein, il a même failli être fusillé par les Allemands. Il est sauvé par la libération de Toulouse et puis il va se battre dans la brigade Alsace-Lorraine, toujours sous le nom de colonel Berger, hein, c'était son nom de guerre. Et alors c'est une expérience qui va évidemment, à la fin de la guerre, le conduire vers le général de Gaulle, ce qui sera son dernier engagement, celui des 30 dernières années de la vie d'André Malraux. Il s'en expliquait au micro de Jacques Chancel en 1974.
Pendant la résistance, j'ai épousé la France. Autrefois, j'avais, dans une certaine mesure, eu un lien extrêmement profond avec, disons, le prolétariat, et j'ai eu pendant la guerre le sentiment qu'on ne pourrait rien faire qui ne passe par la France. En conséquence, je me suis trouvé gaulliste et au service d'une tentative de présence de la France sur laquelle je ne crois pas m'être tellement trompé.
Malraux ministre, c'est un...
J'étais pas ministre, j'étais ministre du général de Gaulle.
Citoyens, citoyennes, parmi vous, nombreux sont encore ceux qui ont entendu nuit après nuit. Ici, Londres, les Français parlent aux Français, honneur et patrie, vous allez entendre le général de Gaulle. Ici Paris, honneur et patrie, une fois de plus français, au rendez-vous de la République et au rendez-vous de l'histoire, vous allez entendre le général de Gaulle.
Et c'était André Malraux, place de la République en 1958. Il s'agissait de saluer l'arrivée, enfin la naissance de la Ve République, de la constitution de la Ve République. Mais alors, défendant De Gaulle, on l'a entendu avec les talents d'orateur qu'il avait, un De Gaulle qu'il avait rencontré beaucoup plus tôt. Hein, vous le rappelez, Guillaume Belin, dès 1941, pendant la guerre, pendant qu'il ne faisait rien, il n'était pas encore dans la résistance, il avait tenté de contacter De Gaulle.
Après l'appel du 18 juin, Malraux voit l'occasion de reprendre l'aventure espagnole, cette fois pour la France, c'est-à-dire de partir avec une poignée d'hommes décidés et mener l'aventure à quelques-uns contre tous. Donc il a envoyé parce que le poste entre Paris et Londres, enfin entre la France et Londres était assez perturbé à l'époque, fait parvenir une lettre au général de Gaulle où il lui dit qu'il ne doit pas avoir d'aviateur à revendre et que si on lui fait signe, il rapplique immédiatement. Malheureusement, la lettre est perdue. Malraux en prend ombrage.
Il a cru qu'on ne voulait pas de lui, en fait.
Qu'on ne voulait pas de ses services, qu'on lui reprochait encore son engagement avec les communistes de l'entre-deux-guerres. Il est donc en quelque sorte parti boudé.
Alors, il va le rencontrer finalement, ça se passe en août 45, et il y a tout de suite une admiration profonde entre les deux hommes, et réciproque, hein. De Gaulle, Malraux admire De Gaulle, ça on s'en doute. De Gaulle admire, et je crois que c'est un des seuls personnages d'ailleurs qui est impressionné, le général De Gaulle lui-même, Malraux.
C'est une rencontre et une relation profondément étonnante quand on pense à quel point les deux personnages sont dissemblables. Maintenant, on peut imaginer qu'ils ont été immédiatement unis par cette idée de grandeur qu'ils partageaient, où De Gaulle voyait la grandeur de la France, la nation éternelle, où Malraux voyait, lui, la grandeur des hommes qui la composaient.
Il y a un bel hommage que vous citez, qui est connu, qui est écrit dans Mémoire d'espoir du général de Gaulle, et qui dit « À ma droite, j'ai et j'aurai toujours André Malraux. La présence à mes côtés de cet ami génial, fervent des hautes destinées, me donne l'impression que par là, je suis couvert du terre-à-terre. » Oui, vraiment, il y avait une admiration réciproque. Alors, tout de suite, il va être ministre, je crois, dans le premier gouvernement du général de Gaulle, et puis il va quitter, bien sûr, le pouvoir quand de Gaulle partira lui-même. Il a fait ça à chaque fois, hein, il est parti. Et puis il y aura sa traversée du désert, lui aussi Malraux, hein, jusqu'au retour. Il était quand même pendant cette période orateur du RPF, hein, ce parti très parti gaulliste, très anticommuniste. C'est là qu'on a vraiment accusé de trahison. Est-ce qu'on peut parler de trahison de Malraux?
Ah, il en était même le délégué à la propagande, titre qui veut vraiment RPF, dire oui. Ce qui est. Dans le contexte extrêmement tendu de l'époque, ça a été perçu comme une trahison puisqu'il passait d'un camp à l'autre dans un contexte très antagonique. Maintenant, il est resté fidèle à sa notion de la fraternité et surtout à chaque fois à ceux qui étaient pour lui les hommes qu'il incarnait. Ça a été l'élan révolutionnaire de l'entre-deux-guerres. On a parlé de Trotsky. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'est devenu pour lui De Gaulle.
Il a épousé la France, hein, on l'a entendu auprès de Jacques Chancel. C'est vrai que c'est, il donne au fond à ses idées de gauche, est-ce qu'il les a abandonnées d'ailleurs, mais enfin il leur donne une dimension nationale en quelque sorte avec De Gaulle. Patriotique, disons. Non, il y avait d'ailleurs les communistes pendant la guerre aussi, il faut le rappeler, ils ont résisté.
Il ne l'a vraiment jamais abandonné. Son idée de la fraternité humaine, il en a trouvé la réalisation la plus achevée dans sa brigade Alsace-Lorraine, qui était composée des Alsaciens qui avaient fui l'occupation allemande et qui voulaient reconquérir leur sol avec leur sang, puisque c'était une des phrases qui revenait souvent chez eux. Il a perdu le côté universaliste pour retrouver cette fraternité dans un cadre national, comme vous dites. Mais en cela, il est resté fidèle.
Et alors donc, évidemment, De Gaulle revenant au pouvoir, il le prend à nouveau comme ministre. Il restera du début à la fin du septennat et demi du général De Gaulle, étant toujours l'orateur du mouvement. On fait appel à lui. Alors, De Gaulle, il est ministre de la Culture, il faut vous le rappeler, bien sûr. Hein, premier ministre du premier ministère de la Culture, c'est lui qui l'a créé. Et puis, il est aussi envoyé par De Gaulle pour rencontrer de grands personnages. personnages, c'est là où on voit le goût de l'histoire que pouvait avoir André Malraux. Il est heureux d'aller rencontrer Nehru, de s'entretenir avec Mao Tse-tung. C'est ce qui s'est passé en 65. 65 est aussi une année d'élection présidentielle où Malraux est en première ligne pour faire voter le général de Gaulle qui se représente à cette élection au deuxième tour contre un certain François Mitterrand qui est fustigé par Malraux au Palais des Sports le 19 décembre 1965.
Comme chacun, j'ai entendu le petit couplet de Monsieur Mitterrand à la liberté. Ce poujadisme sentimental semblait bien mince en face d'un si grand héritage. Pour nous, la gauche, c'est la présence dans l'histoire de la générosité par laquelle la France a été la France pour le monde. Candidat unique des Républicains, de quel droit venez-vous vous prévaloir de Fleurus, vous qui n'étiez même pas en Espagne? Candidat unique des Républicains, laissez dormir la République!
Malraux en 65, attaquant Mitterrand au nom des valeurs de gauche. Ça, c'était assez extraordinaire. Il a même eu cette phrase terrible. Je crois que Mitterrand était soutenu au deuxième tour, même par l'extrême droite. Il a dit candidat unique de quatre gauches, dont l'extrême droite. Mais c'était terrible, ces attaques de, il aimait pas Mitterrand.
Ce n'est pas tant qu'il n'aimait pas Mitterrand qu'il n'aimait pas les professionnels de la politique. Lui qui cherchait à rester ancré sur
dans l'histoire,
une valeur universelle et dans l'histoire. Oui. Là où ça s'est cristallisé sur Mitterrand, c'est que dans ces années, Mitterrand était l'opposition politique la plus importante au général de Gaulle. Et qu'il le fasse au nom de valeurs, la défense de la République, que de Gaulle avait restaurée, là où Mitterrand avait été un ministre à répétition, donc très ancré dans un système qu'il détestait, que de Gaulle avait réussi la décolonisation, quelle autre ambition de gauche, là où Mitterrand avait été dans les ministères qui avaient déclenché les événements en Algérie. Non, tout ça l'énervait profondément, comme on le sent dans cet extrait.
Alors tout ça a énervé, ses positions ont énervé. C'est un homme très isolé, Malraux. Pourquoi ? Parce que il dresse contre lui, on s'en doute, toute l'intelligentsia de gauche. Il dresse contre lui les écrivains de droite qui sont très anti-gaullistes à cause de l'Algérie. Vous dites d'ailleurs qu'il ne voyait pas du tout, lui, l'écrivain, ne rencontrait pratiquement pas les milieux littéraires, il parlait à très peu, il n'en connaissait que très peu d'écrivains français contemporains.
Ah, Malraux se reconnaissait très très peu des goûts. Mmh. Il avait ses grands anciens quand il était encore tout jeune homme et qu'il avait développé des relations amicales très poussées avec des Gides et des Mauriac qui étaient déjà des sommets de la littérature quand lui débutait à peine. Mais quand lui-même a atteint ces sommets-là, il se voyait plutôt dans la position de ceux qui faisaient l'histoire, les Mao, les Nehru que vous citiez.
Alors l'histoire, elle se fait quand même un peu à ses dépens en 68. On a l'impression qu'il passe à côté des événements, Guillaume Belin. Vous dites à un moment donné, il parle des étudiants, il a cette formule assez amusante, les étudiants demandent évidemment le départ du général de Gaulle, et à un moment donné il dit, mais qu'est-ce que c'est que ces jeunes, c'est bien la peine de faire l'amour en public par groupe de 6 pour aboutir au président du Sénat, parce que c'est le président du Sénat, c'est de Gaulle partait, qui serait au pouvoir. Terminer l'apocalypse par la restauration de Topaz, pourquoi pas. Il est à côté de la plaque un peu quand même.
Il y a une double désillusion en 68 pour Malraux. La première, c'est qu'il ne retrouve pas dans les nouveaux élans de cette époque, les élans de sa jeunesse, qui conduisait quand même à partir les armes à la main, à risquer sa vie pour ce à quoi on croyait, qui était quand même autre chose que de mettre des barricades rue Gay-Lussac. Et ensuite, il sent, beaucoup plus que décalé par rapport à son époque, il sent une sorte de divorce avec ce peuple qu'il avait épousé en même temps qu'il avait épousé le général de Gaulle.
Alors il va quitter le pouvoir avec de Gaulle, refusant, il est sollicité pour être ministre, il refuse, pas question d'être le ministre de Georges Pompidou ou de Giscard d'Estaing, mais alors il ne baisse pas les armes, voilà que il se met en 71 à militer, à défendre la cause du Bengale qui est menacée par le Pakistan. Il retrouve sa fougue du temps de la guerre d'Espagne, veut créer une légion de volontaires, une brigade internationale, et préfère nettement l'action aux pétitions.
Les partisans du Bangladesh n'ont pas abandonné la lutte. Leur premier objectif est d'être reconnus officiellement par le gouvernement de Madame Indira Gandhi. Et à Calcutta, on appelle les gens à signer des pétitions en faveur de cette reconnaissance.
dont les conférences limitées à des conférences seront toujours du temps perdu et des moyens de donner bonne conscience aux intellectuels, et pendant qu'ils auront bonne conscience, le Pakistan mettra ses chars en place. La puissance de l'esprit pendant 15 ou 20 ans passera par l'engagement physique.
L'engagement physique, c'est ça qu'a fait Malraux toute sa vie. Et on a rarement parlé comme ça du rôle des intellectuels. On les voit plutôt signer des pétitions, faire des discours, écrire des livres, défendre des causes, avec beaucoup de noblesse. Mais l'engagement physique, au point où l'a poussé André Malraux, ça s'est rarement vu.
L'engagement personnel a toujours précédé chez lui, non seulement la littérature, mais en plus l'engagement politique. Gide le houspillait en lui disant, mais pourquoi n'écrivez-vous pas plus? Votre œuvre pourrait être considérable. Et finalement, vous n'avez fait que ces quelques romans. La réponse de Malraux était « La vie ne m'en laisse pas le temps ». Et chaque fois qu'il a écrit, c'est après avoir vécu, ou au moins essayé de vivre une aventure qui se cristallisait. Et le cas du Bangladesh, dernier engagement, alors qu'il a 70 ans, encore une fois, il retrouve les opprimés du monde en train de se dresser contre des chars à main nue, en plus dans cette Inde pour laquelle il a développé une véritable passion.
André Malraux, un écrivain dans le siècle, au cœur du siècle. Hein, au cœur du siècle, c'est le sous-titre de votre livre, au cœur du XXe siècle. Est-ce qu'aujourd'hui ça a un sens? Est-ce que la parole de Malraux n'est pas démodée aujourd'hui au XXIe siècle, dont il n'a jamais dit, vous le précisez, qu'il serait un siècle religieux? Mais est-ce que Malraux aujourd'hui ça a un sens? Les engagements de Malraux, comment peut-on les considérer aujourd'hui, Guillaume Belin?
Les engagements de Malraux conserve une résonance très contemporaine. Parce que si le contexte de ces livres parle d'un monde qui a disparu, la révolution du début du XXe siècle, l'affrontement entre communistes et non-communistes dans la deuxième moitié, il l'a toujours traduit d'une manière très individuelle, par l'engagement de l'homme dans cette tourmente et la fidélité à tout prix à ce à quoi il croyait.
Donc il est actuel.
Donc il est actuel.
Merci Guillaume Belin. On retrouve Malraux dans votre livre Les 50 moments importants de la vie d'André Malraux. Dans ce livre, André Malraux, un écrivain au cœur du siècle, qui vient de paraître chez Tinet Éditions. Je signale aussi l'édition sonore des grands discours de Malraux, ainsi que son audition du 12 mai 76 à la Commission des libertés de l'Assemblée nationale, qui viennent tous deux d'être édités en CD chez Frémaux et Associés. Je signale également qu'aujourd'hui, le ministère de la Culture et de la Communication organise une série de manifestations autour d'André Malraux, dont un musée éphémère et la visite de son bureau au ministère de la Culture de 10h à 20h. Vous pouvez retrouver, c'est 3 rue de Valois pour le ministère de la Culture, dans le 1er arrondissement de Paris. Vous pourrez retrouver le programme complet des autres manifestations sur le site internet du ministère de la Culture, www.culture.gouv.fr. Et maintenant, la suite de notre jeu concours France Inter Le Figaro. Pour jouer et gagner la collection complète de la grande histoire de l'art du Figaro, il faut répondre à la question du jour. À qui André Malraux a-t-il rendu hommage, un hommage posthume devant la colonnade du Louvre? À Paul Cézanne, à Georges Braque ou à Marc Chagall? Je répète, à qui Malraux a-t-il rendu un hommage posthume devant la colonnade du Louvre? À Paul Cézanne, à Georges Braque ou à Marc Chagall? Pour jouer, appelez le 32-30, 34 centimes la minute, puis donnez votre réponse en suivant les instructions. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Vous trouverez aussi tous les détails de ce jeu et des renseignements sur notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Jean-Philippe Jeanne, Alain Stam, Claire Destacan, Emmanuel Fournier et à notre réalisatrice Anne Comilac.